Et aussi un peu heureux d'arriver à la fin d'Ecclésiaste parce que ça a mis un peu du temps. Mais je ne me suis pas précipité pour vous présenter ce livre car j'estime que ça contient une richesse énorme pour cette vie et une sagesse énorme. Comment vivre cette vie? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette vie? Donc on trouve toutes les réponses dans ce livre, c'est pour ça que je me suis permis de prendre un peu plus de temps. Donc aujourd'hui, on arrive à la fin de ce livre extraordinaire. C'est un des livres préférés de moi. Ecclésiaste 12, chapitre 12, versets 11 à 16. Ecclésiaste 12, versets 11 à 16. Autre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Versets 11 à 12. L'Ecclésiaste a retrouvé à la fin de sa vie, sa vraie fonction. Quelle était sa vraie fonction en tant que roi en Israël? Quelle fonction avait Salomon avant sa chute? Quelle était sa responsabilité?
C'est-à-dire la justice.
Oui, exactement. Ou plus globalement dit, donc régner sur le peuple de Dieu, Israël, et enseigner la parole du Seigneur. Enseigner la sagesse ou la vraie connaissance sur Dieu. C'était ça, ça fonctionne. Donc, avec son livre Ecclésiaste, il a repris son ministère devant Dieu et devant le peuple d'être à la fois roi, mais aussi le bon berger qui guide le peuple vers Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle Salomon a publié son livre Ecclésiaste. Il voulait que tout le peuple sache ce qu'il faut dans cette vie. Quelle est la chose la plus importante? Comme il a déjà fait avec les proverbes, et bien sûr avec son livre Cantique de Cantiques et les deux psaumes. Verset 12, il nous dit, ce sont des paroles de vérité. Quand on lit ce livre, on peut avoir l'impression, c'est vraiment très humain. Mais c'est vrai, c'est humain. Tout ce que Salomon dit, ça reflète un peu nos sentiments qu'on a en nous quand on vit dans ce monde-là. On est en face de la injustice, on est en face de la mort, etc. Donc, il nous décrit tout simplement la vie sous le soleil. Le sentiment que l'homme peut avoir pendant cette vie de vanité. C'est exactement ça. Mais comme je vous ai dit, en même temps, chaque mot est inspiré de Dieu. Et pour cette raison-là, verset 13, sa parole est comme des aiguillons dans la main d'un seul maître. et un seul pasteur. Qui est ce pasteur? C'est Jésus, le bon berger. Ce n'est pas Salomon qui a inventé les choses ici. Il a été inspiré de Dieu. Déjà, Salomon nous a parlé de ce Fils de Dieu dans le Proverbe 8, versets 22 à 31. Donc, si vous voulez le lire à la maison, il a connu ce Fils de Dieu qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Sa parole est comme des aiguillons. Vous savez, le paysan israélien portait en travaillant un bâton avec soi, qui était pointu. Donc, en labourant le champ, le bœuf, des fois, il partait à gauche et à droite, et il fallait frapper le bœuf pour qu'il revienne dans la bonne voie. Donc, il a été piqué, si vous voulez, et il a pu continuer tout droit sur son chemin. Et aujourd'hui, la parole du Seigneur, elle a la même fonction, de nous piquer. C'est important. De nous piquer, de nous réveiller, de nous remettre dans le bon chemin. Si on prend la mauvaise direction, et on a la tendance, les brebis, un brebis, il a toujours la tendance de partir, hein, avec sa propre tête. Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrante jusqu'à partager âme esprit. Ça, c'est la parole. C'est pour cette raison-là, distribuer la parole. Elle est vivante, elle est efficace, elle pique. C'est pas nous qui vont changer le cœur d'un homme, non, c'est sa parole. Donc distribuer la parole, elle est efficace, elle va agir dans le cœur. Même si on ne voit rien, mais continuer à proclamer sa parole. Regardez l'apôtre Paul dans les Actes 26, 14. Actes 26, 14. Un homme très religieux rencontre Jésus. 26, 14. Et l'apôtre Paul nous décrit son rencontre avec Jésus. « Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. » L'apôtre Paul résistait aux vérités, résistait à Jésus, jusqu'au le jour où il rencontrait Jésus. Et c'est là où il a plié ses genoux devant son Créateur et Sauveur. Acte 22, 9 à 10. Quand on est touché par les aiguillons de la parole du Seigneur, on demande, comme l'apôtre Paul, dans les Actes 22, 9 à 10, « Que ferai-je, Seigneur ?» Est-ce que vous avez posé cette question, si vous êtes avec le Seigneur, ou vous continuez à vos idées à vivre? Nous avons déjà lu ce matin, « Que ferai-je, Seigneur ?» Moi, je ne vis plus, je suis mort avec le Christ. Mais malheureusement, je rencontre beaucoup d'enfants de Dieu qui ne vivent pas du tout avec le Seigneur. Ils vivent toujours leur vie. Le Seigneur, il est bon, il nous a sauvés, ça suffit. Mais il n'a pas droit d'être maître dans ma vie. C'est moi qui décide. Et ça, ça ne va pas. Avez-vous déjà fléchi vos genoux devant votre Créateur et Sauveur? Avez-vous déjà senti les aiguillons de la parole du Seigneur? Si oui, pourquoi vous résistez encore? Fléchissez vos genoux aujourd'hui, car demain, c'est peut-être trop tard. J'ai une jeune femme, une patiente qui est partie, 49 ans. Elle avait un cancer, elle a laissé des enfants. Elle est partie comme ça, un cancer de cerveau. Là, j'ai une autre dame, 65 ans, cancer de pancréas. Elle aussi, elle est consciente qu'elle va partir bientôt. Donc, il n'y a pas d'âge pour la mort. Donc, ne gaspillez pas votre temps. Verse 13. Les paroles de sages et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. La parole est pénétrante jusqu'à partager d'âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Aucun livre dans ce monde peut avoir cette puissance. Aucun. Ce sont des paroles vaines, mortes. La Bible seule est la parole du Seigneur. À travers de la Bible, Dieu se révèle aux hommes. L'homme, il attend quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous a donné sa parole. Noir sur blanc. Il a fait exprès comme ça, parce que sinon, on aura beaucoup d'histoires. Mais là, on a la Bible qui n'a été jamais rectifiée. Elle est restée toujours la même. Donc, c'est pour ça, elle est comme des clous plantés. Ça ne bouge pas. C'est sûr. Et donc, c'est Dieu qui parle à travers de son livre. Et Matthieu 24, 35, le Seigneur dit que la terre et le ciel passeront, mais ma parole subsistera. Elle reste pour toujours. Et quel livre peut dire ça? Aucun livre. Aucun. Il y a 25 ans, quand j'ai lu la Bible, ça m'a touché, parce que c'est la parole du Seigneur. Verset 14. Du reste, mon fils tire instruction de ces choses, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Quel est le sens de son livre? C'est de nous instruire, de nous avertir et de tirer des conséquences. Le but de la Bible, c'est, après 2 Timothée 3, 16, d'abord enseigner, convaincre, corriger, instruire. C'est ça le but de la Bible. J'ai une patiente, elle cherche Dieu, elle le dit. Elle a lu beaucoup de livres. Je ne les connais même pas, mais tellement de livres. Mais elle cherche encore, donc il y a un problème. Si vous gaspillez votre temps en lisant tous les livres de ce monde, vous finirez pas. Vous allez être fatigué, crevé. Et cette dame, c'est pareil. Il n'y a rien dans ce monde qui comble notre vide qu'on a en nous. C'est la parole du Seigneur. Elle est vivante, elle est efficace. Donc c'est pour cela qu'on ne cherche plus. On a trouvé la source, l'eau vivante. Le Seigneur le dit, je suis la vérité. Donc si le Seigneur est la vérité, tout le reste c'est du mensonge. C'est la conséquence. Donc, j'ai un autre patient, un témoin de Jéhovah. Je lui dis, écoutez, j'ai trouvé ce que j'ai cherché. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'ai trouvé la vérité. J'ai Jésus dans mon cœur, j'ai une relation avec Dieu. Et Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est fini. On ne cherche plus. Parce qu'on a trouvé la source. On a trouvé la vérité, la parole seule. Avez-vous trouvé la vérité? Êtes-vous fatigué? Arrêtez à lire les différents livres de toutes les religions. Qu'est-ce que ça vous apporte? Dites-moi, si vous lisez les autres livres, du Bouddha, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça vous apporte? Zéro, rien. Ça vous amène où? Nulle part. Nulle part. Dans Nirvana, vous n'existez plus. Dans le vide. Et la Bible, elle vous mène où? Dans les bras de votre Créateur, Jésus. C'est ça la différence. Elle vous donne la vie. La relation et la rencontre de Jésus sauvent du jugement et il vous donne la vie éternelle. Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tout le monde cherche le repos, la paix. Il cherche dans plusieurs endroits, mais il ne trouve rien. Qu'est-ce qu'il trouve? Ils sont encore plus fatigués. Parce qu'ils ne vont pas à la source. La source, c'est Jésus. C'est lui qui donne la paix et le repos. Avez-vous cette paix? Connaissez-vous ce repos? Déjà. Sinon, je vous invite ce matin à venir vers lui. Fléchissez vos genoux, répondez-vous, parlez-en avec Jésus. Dites-lui, je suis désolé, j'ai vécu une vie sans toi. Mais maintenant c'est fini, je ne veux plus cette vie. Je veux vivre avec toi. J'ai compris, c'est toi le sens de la vie, l'essence de la vie. C'est toi la source. J'ai besoin de toi, comme on a lu ce matin. Salomon, qu'est-ce qu'il dit dans son livre? Vanité des vanités. Ce monde sans Jésus, il est vide, il vaut rien. Ce monde, il vaut rien du tout. C'est pour cela, versets 15 à 16, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Quand on finit sa vie, ou un livre, ou un discours, on veut dire les choses essentielles. On ne veut pas raconter n'importe quoi, on dit ce qui est vraiment important. Et c'est ce qui fait Salomon. Quelle est la chose la plus importante sous le soleil pour nous? Qu'est-ce qu'il dit Salomon? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ou autrement traduit, c'est ça l'homme. On est fait pour ça, pour craindre Dieu, vivre avec lui, aimer Dieu et le obéir. On est fait pour ça. Ça, c'est l'essence de la vie. C'est le programme de la vie, prévu par Dieu pour l'homme. C'est prévu pour ceux qui ne croient pas et pour ceux qui croient. Crains Dieu, car Dieu jugera le juste et l'injuste. Verset 16. Donc là, nous avons un regard futur, au-dessous du ciel. Oui, souvent, il nous a montré la situation au-dessus du soleil, là, au-dessous du soleil, du ciel. Donc, devant Dieu, il y a deux groupes. Il y a le tronc blanc et le deuxième groupe se trouve devant le tribunal du Christ. 2 Corinthiens 5, 10. Donc ceux qui sont perdus pour l'éternité et ceux qui sont sauvés pour l'éternité. Il y a deux groupes. Il n'y a pas catholiques, pentecôtistes, je ne sais pas quoi. Il n'y a que deux groupes. Donc quel groupe vous vous trouvez aujourd'hui? Est-ce que vous serez devant le trône blanc ou le tribunal du Christ? Pour ceux qui croient en Jésus, ils sont donc devant le tribunal du Christ. Mais ils ne vont pas être condamnés. Car ceux qui sont en Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Romains 8, 1. Là, le Christ, il a pris tous les péchés sur nous. Donc, il a été frappé et puni pour nos péchés. Mais nous avons une responsabilité en tant que chrétiens. Après Romains 14, 10 à 13 et 2 Corinthiens 5 à 10, nous devrons rendre compte pour cette vie ou pour le ministère que Dieu nous a confié. Que faisons-nous avec ce don que Dieu nous a confié? Que faites-vous avec le temps que Dieu vous a confié? Donc, dans le tribunal du Christ, on sera jugé. Quelle était notre motivation pour servir Christ? Notre fidélité, notre sincérité, etc. Donc Dieu connaît toutes nos pensées et nos actions. Et ça serait une récompense. On sera couronné. 1 Corinthiens 9, 23 à 25. En plus de la vie éternelle, Dieu veut nous donner une récompense. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est notre responsabilité. Et c'est logique. Avec tout ce que vous avez reçu du Seigneur, vous ne pouvez plus vivre comme avant. Vous devrez vous consacrer entièrement en lui. Il a tout donné, le maximum. Donc on ne peut plus rester le vieux. Et le temps presse. On n'a pas beaucoup de temps ici sur terre. Donc que faites-vous avec ce don que Dieu vous a confié? Vous êtes ambassadeur du Christ. Vous avez le message le plus important du monde. Dieu vous a confié ça. Que faites-vous avec ça? Donc, on avait déjà traité ce sujet-là avec les couronnes, la récompense, dans la deuxième partie de ce livre. Johnny Hallyday, il est parti. On a une chanson de lui qui s'appelle « J'en parlais au diable ». Ça, c'est son dernier album. Dieu remercie. Quelques extraits de son chanson. « Car les jours viendra de répondre de mes actes. » Donc, il était au courant. « Et je ne me cacherai pas. » Oui, le jour viendra de respecter le pacte. Quel pacte? Et lui seul m'entendra. J'en parlerai au diable. Si l'heure vient à sonner, de m'asseoir à sa table et dire ma vérité, il saura m'écouter, etc. Incroyable. Et déjà, ça a été vendu, je ne sais pas combien, cet album. Ouh, voilà. Quelle est la réalité? Apocalypse 20, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il va dire auprès de son créateur, Johnny Hallyday? Apocalypse 20, 10 à 15. Ça, ce sont des vérités. Ça, c'est sûr. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessous. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petites, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de fond, de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc, il n'y a pas de discussion avec le diable. Le diable, il sera dans le temps du feu. Et si vous, vous n'avez pas fait la démarche avec le Seigneur, vous allez rester avec lui. Donc, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, on a le 11 novembre, il y a une commémoration de la Première Guerre mondiale. En même temps, on commence le carnaval en Allemagne, 11 novembre, 11h11, et la débauche aussi. Vous savez, nous sommes complètement dingues. Complètement. Il y a 50 millions de morts pendant cette guerre. Ecclésiaste 7, 29, ce que Dieu a fait des hommes, droit, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Pourquoi la Première Guerre mondiale et la Deuxième? Pourquoi? Parce que ce monde vit sans Dieu. Parce que ce monde est géré par Satan. Et les gens écoutent Satan. C'est pour cela. Est-ce que vous voulez appartenir toujours à ce maître qui veut la mort et la destruction, ou vous voulez changer le camp? C'est l'occasion, maintenant. Donc ce monde vit séparé de Dieu depuis la chute d'Adam et Ève. L'humanité vit dans la désobéissance. C'est pour ça la colère de Dieu frappera ce monde. Obligé. Nous avons besoin le sauveur de cette misère. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, juste ou injuste. Et je répète encore, si vous êtes chrétien, c'est écrit dans le Jacques 2, 17, il en était ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Est-ce que vous avez de fruits dans votre vie? Un chrétien sans œuvre, ça ne va pas du tout. Salomon dit, après avoir tout essayé, et vous connaissez sa vie, une catastrophe. C'était une vie dans la désobéissance de Dieu. Il a vraiment chuté et incroyablement bas. C'est pour ça qu'il peut nous dire, crains Dieu et observe ses commandements. Ne sois pas bête comme moi. J'ai fait tellement de bêtises dans ma vie. Ne passe pas par le même chemin. Crains Dieu, aime Dieu, observe ses commandements. C'est ça qui te rend heureux. Il avait tous les moyens, il a tout essayé, il a tout acheté, il a tout construit. Il a, si vous voulez, il a réalisé tous ses rêves. Mais il est resté vide parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Donc, crains Dieu dans cette vie, dans ton travail. Quand tu fais un travail, fais-le pour le Seigneur. Quand tu as une famille, Fais-le parce que tu crains Dieu. Quand tu nettoies le sol, fais-le pour le Seigneur. Hier, ma femme, elle m'a dit, regarde, je viens de nettoyer le sol, il est déjà encore pas belle. Si on n'a pas cette idée de servir Christ, de craindre Dieu, on va se fatiguer. Faites-le pour le Christ. Vivez pour le Christ. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. En tant Église, acte 9, 31, s'il vous plaît. On peut désespérer si on n'a pas cette attitude. Acte 9, 31. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà, craignez Dieu en tant qu'Église. Faites ce que Dieu veut. Il nous a donné des commandements. Donc, obéissez Dieu. N'importe quel résultat, mais il aura du résultat. Nous, on doit juste rester dans le bon chemin. 1 Pierre, s'il vous plaît. 1 Pierre 1, 17 à 19. 1 Pierre 1, 17 à 19. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Voyez, le Nouveau Testament répète la même chose. Crains Dieu, vis pour lui. C'est pareil comme dans l'Ancien Testament. Pourquoi craindre Dieu? À cause du jugement? Oui, aussi. Dieu va frapper ce monde. Et l'homme, il peut nous tuer. Mais Dieu tue votre âme qui a la capacité de vivre éternellement. Donc, il faut craindre Dieu. Oui, c'est un juge suprême. Mais on craint Dieu aussi parce qu'il nous aime. Il a donné son Fils unique pour quiconque croit en lui à la vie éternelle. Salomo décrit déjà l'amour de Dieu dans un livre qui s'appelle Cantique de Cantique. Donc, voyez, Salomo, il a compris aussi le centre du message de Dieu, c'est l'amour. Même si tu ne comprends pas Dieu de tout ce qu'il fait dans ce monde, rassure-toi, moi aussi, je comprends beaucoup de choses, je ne comprends pas. Mais crains Dieu, il ne se trompe pas, c'est lui le sage, il sait ce qu'il fait, et quand, et comment. Il ne va jamais faire une faute. Jamais on va pouvoir le juger. C'est lui le juge suprême. Donc, pas besoin de déconner. Non, restez zen, comme on dit, restez calme. Dieu sait ce qu'il fait. C'est lui la personne la plus sage. C'est la personne en sagesse. Et Jésus dit pareil, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, voyez, on a le même sens. Donc, il faut que ça se déclare quand même, si vous aimez Christ dans votre vie. Dans la crainte de Dieu, bien sûr, après 1 Jean 4, 18, on connaît ce verset, on n'a plus la crainte. Elle n'existe plus dans l'amour de Dieu. On n'a rien à craindre parce qu'on est dans l'amour de Dieu. Mais comment comprendre tout ça? Je vous explique à la fin. Quel est le commandement le plus important? Il y avait un jeune homme qui posait cette question à Jésus. Matthieu 22, 36 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça le premier commandement. Est-ce que ce commandement, il est nouveau? Non. Déjà, ça existait dans l'Ancien Testament. C'est un récit. Deutéronome 6, 5. Dieu ne change pas. Il veut notre cœur. Donc, si vous aimez Dieu, si vous craignez Dieu, vous faites ce que Dieu veut. Si vous ne l'aimez pas, vous faites ce que vous voulez. C'est un simple trait calcul. Matthieu 26, 39, Jésus est notre exemplaire. Il dit, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Avons-nous cette attitude? Nous avons la responsabilité devant notre Créateur. C'est lui le propriétaire de la vie. Vous appartenez à lui, légalement. Que faites-vous avec cette vie que Dieu vous a confiée? Donc, si vous voulez être heureux, déjà ici sur terre, et que ça se finisse bien, dans la joie éternelle, aimez, craignez Dieu et vivez pour sa gloire. C'est ça notre destin, vivre pour lui sous le soleil. Notre destin, c'est Jésus. C'est lui qu'on a besoin. Obéissez Dieu, aimez, dit Salomon. Regardez ma vie. Moi, je me suis séparé du Seigneur et c'était une catastrophe. Ne faites pas les mêmes fautes. Craignez Dieu, aimez Dieu, observez ses commandements, servez Dieu. Donc ce livre nous prépare à se jeter vers les bras de Jésus, qui est la source de la vie, qui est notre Créateur, qui est notre bon berger, qui est tout pour lui. On a besoin de lui, nous avons soif de lui. Juste une dernière chose, comparaison enfant-père. Crainte, l'amour. Un père, où nous avons un père céleste et un enfant de Dieu. Et on a aussi naturellement un enfant qui obéit son père terrestre, car il sait que son papa a des bonnes idées pour lui. Mais en même temps, l'enfant sait aussi le jour où il n'obéit pas, son père va le punir et son père va être en colère. Donc, il va le punir. Il n'y aura plus la tablette ou plus droit à jouer avec d'autres enfants, etc. Donc, même si l'enfant désobéit, il reste quand même un enfant de son père. Et spirituellement, c'est pareil. Même si un enfant de Dieu vit à sa façon, sans Dieu, dans la désobéissance, il reste quand même son Père céleste. Mais nous connaissons les vérités de la Bible, Dieu est obligé de nous châtier comme un Père terrestre, mais pour le bon. L'Hébreu 12, 5 à 7, ça nous il nous parle de châtiment. Quand on est un fils de Dieu, Dieu nous châtie. Donc c'est tout à fait normal que l'enfant de Dieu doit se repentir, et ici, hein, le plus vite possible. Et sinon, il n'y aura pas de récompense. Après 1 Corinthiens 3, 14 à 15. Et ça, le Seigneur veut éviter. Il veut nous honorer en plus. Il veut nous couronner. Donc, je vous encourage ce matin à vivre pour lui. Je vais finir avec un verset, Matthieu 28. Nous avons un but. Nous sommes là pour une raison. Matthieu 28, 18 à 20. Avant que Jésus reparte au ciel, il a donné un commandement. Et c'est ça qui lui tient au cœur. Est-ce que ça nous fait travailler aussi dans notre cœur? Matthieu 28, 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions, si vous voulez bien. Si vous pouvez, levez-vous. Je voudrais bien prier